Alors, à quel point prenez-vous au sérieux le rôle des anciens dans l'Église? Des anciens, dites-vous. Oui, les anciens, si vous ne le savez pas encore. Ce sont les hommes qui, dans chaque église locale, sont chargés de diriger et d'enseigner l'église. Diriger l'église et enseigner l'église. C'est une fonction officielle dans l'église. On a déjà eu l'occasion d'en parler déjà à travers, dans la série de messages sur la première épître de Paul à Timothée. Et comme on l'a vu d'ailleurs au chapitre 3, les hommes qui sont consacrés à cette fonction sont tantôt appelés des anciens dans la Bible, mais parfois ils sont appelés par d'autres mots, d'autres noms. Par exemple, des évêques ou des surveillants, tantôt des pasteurs, tantôt des conducteurs. En fait, les différentes traductions de la Bible font leur choix parmi ces mots, peut-être parmi d'autres mots même qu'ils jugent opportuns. Mais tous ces mots, en fait, on voit quand on lit le Nouveau Testament que l'apôtre Paul, quant à lui, il les emploie de manière assez interchangeable. Ils expriment des nuances un peu différentes les unes des autres par rapport au rôle des anciens, mais Paul, il ne se gêne pas pour les employer de façon interchangeable. Ce qui est clair, en tout cas dans la Bible, c'est que la direction et l'enseignement de l'Église sont confiés à certains hommes et que ces hommes se consacrent à cette charge comme à une charge de la plus haute importance, comme à un office de la plus haute importance. Mais à quel point prenez-vous cet après-midi, vous personnellement, au sérieux le rôle des anciens dans l'Église? Si un jour je vous proposais que l'Église rémunère son pasteur titulaire, pas moi, mais un autre pasteur, disons, qu'on appellerait à devenir le pasteur titulaire de l'Église, disons que je vous proposais de le rémunérer à hauteur de 4000 euros net par mois. Qu'est-ce que vous en penseriez? Est-ce que c'est trop payé? Si un jour je vous annonçais que le conseil d'anciens de notre Église avait décidé de démettre de ses fonctions quelqu'un qui était ancien depuis plusieurs années et qui était votre ami, un ami proche, et même que le conseil d'anciens avait décidé de l'exclure de l'Église parce qu'il persistait à vouloir enseigner, en tout cas dans son enseignement, à vouloir remettre en doute le fait que Jésus était bel et bien né d'une vierge. Comment est-ce que vous le prendriez? Est-ce que vous trouveriez que ça serait un peu injuste? Et si un jour l'un de vous me disait « Alex, je suis doué dans l'enseignement, j'ai de l'expérience, j'ai la confiance de pas mal de personnes dans l'Assemblée et je crois que Dieu m'appelle à exercer officiellement mes dons spirituels dans cette Assemblée, dans cette Église, à être reçu comme ancien. » Et disons que moi je vous réponde « Mais mon cher ami, c'est une belle activité que tu désires, mais ça fait que quelques mois que tu viens à l'Église. Si on en reparlait dans quelques années, comment le prendriez-vous? Vous seriez frustré ?» Je crois que nos réactions à ces situations hypothétiques révèlent d'une façon ou d'une autre à quel point nous prenons vraiment au sérieux le rôle des anciens dans l'Église. Et je l'ai déjà dit dans le passé, quand on en a parlé, je crois que la tendance, c'est de sous-estimer l'importance de cette fonction. La tendance, c'est de sous-estimer l'importance de cette fonction. On a tellement peur du cléricalisme en tant que protestant, on a tellement peur du cléricalisme qu'on bascule très facilement dans l'anticléricalisme. Mais comme on va le voir ce soir, je l'espère, la Bible nous invite en réalité à prendre l'office d'ancien très au sérieux. Et probablement plus au sérieux que vous ne l'avez fait jusqu'à présent. Je dis probablement, je ne sais pas. Et on va voir comment et pourquoi le prendre au sérieux. Alors lisons le texte, 1 Timothée chapitre 5, versets 17 à 25. Que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain » et « L'ouvrier mérite son salaire ». Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi en aient de la crainte. Je te conjure, devant Dieu, devant le Christ Jésus et devant les anges élus, d'observer ces règles sans préjugés et de ne rien faire par favoritisme. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne te rends pas complice des péchés d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. Cesse de boire uniquement de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge. Chez d'autres, ils ne se découvrent qu'après coup. De même, les œuvres bonnes se manifestent, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Avant de prier, je voudrais juste faire une petite remarque concernant le verset 25, où une meilleure traduction serait probablement la suivante. De même, les œuvres bonnes sont manifestes, et celles qui ne le sont pas, autrement dit qui ne sont pas manifestes, mais qui sont bonnes, ne peuvent rester cachés. On va y revenir dans un petit moment. C'est la traduction que préfère Jean Calvin. Alors je le mentionne. Prions. Seigneur, merci encore pour le privilège que nous avons de pouvoir étudier ensemble ta parole et de le faire librement sans être inquiétés par les autorités. Seigneur, permets que ce soir nous puissions en tirer notre nourriture spirituelle grâce à toi. C'est toi qui peux sanctifier la prédication de ta parole et l'utiliser pour nous édifier de façon mystérieuse mais non moins efficace. Alors Seigneur, nous invoquons l'aide de ton esprit maintenant pour qu'il éclaire notre intelligence et applique ta vérité à nos cœurs et à notre vie. Au nom de Jésus, amen. Alors, prendre l'office d'ancien très au sérieux, ça implique premièrement, d'honorer les anciens généreusement. Le terme qui est traduit par « honneur » au verset 17, « que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur », ça signifie à la fois le respect, le fait d'honorer quelqu'un par respect, mais aussi la rémunération. Ça a donné d'ailleurs en français, par exemple, le mot « honoraire ». Donc, honorer, dans ce contexte, ça signifie à la fois montrer du respect et rémunéré matériellement. Paul dit ici dans ce passage au verset 17 que les anciens qui font bien leur travail, n'est-ce pas, méritent d'être bien payés, qu'ils soient jugés dignes d'un double honneur, surtout, dit-il, ceux qui sont spécialisés dans l'enseignement de la parole. Et ici, l'expression « prendre de la peine à la prédication et à l'enseignement », ça veut dire travailler dur, travailler en se fatiguant, d'accord ? Donc pour Paul, un homme qui consacre de nombreuses heures à la préparation d'une prédication de qualité, et à plus forte raison, si cette personne est consacrée à temps plein à ce travail, eh bien celui-là mérite de recevoir des honoraires généreux comme signe d'honneur et d'appréciation. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'exhortation de Paul, dans ces deux versets, elle est adressée pas tant aux anciens, pas tant à Timothée, qu'à l'assemblée elle-même. Il faut que les membres de l'Église jugent dignes ces anciens d'un double honneur, vous voyez, c'est aux fidèles de l'Église de les juger dignes, de les estimer dignes, d'être payés plus pour la qualité de leur travail, vous voyez. La question que Paul soulève ici, c'est la suivante. Quelle valeur accordons-nous au rôle des anciens et particulièrement à la prédication et à l'enseignement de la Bible dans l'Église? Quelle valeur accordons-nous à cela? Ce qu'on est prêt à payer pour un service révèle l'appréciation qu'on a de ce service, n'est-ce pas? Ça se passe tous les jours, enfin presque. Ce qu'on est prêt à payer pour un service révèle l'appréciation que nous avons de ce service, mais aussi la qualité que nous attendons en retour. Il nous est arrivé à Suzanne et moi, une fois dans notre vie, je le souligne, de célébrer notre anniversaire de mariage en allant dîner dans probablement un des 3 ou 4 meilleurs restaurants de Lyon. J'ai mis le costume cravate, Suzanne a mis la robe de soirée. Et puis, sitôt installé à une magnifique table avec vue sur le fleuve et la ville, dont les lumières commençaient à scintiller dans l'obscurité croissante du crépuscule, un serveur s'est approché et d'une voix très aimable, il nous a proposé une petite coupe de champagne en guise d'apéritif, messieurs, dames. Il faut savoir que dans ce genre d'endroit, il est d'assez mauvais goût de demander le prix avant de commander, n'est-ce pas? C'est donc après avoir dit oui et après avoir vu la note à la fin du repas que j'ai découvert que notre petit apéritif avait coûté 18 euros chacun. Quant au repas, pour ce qui nous a coûté en argent, on aurait pu s'acheter un joli écran plat chez Darty, d'accord? Et pourtant, vous savez quoi? La nourriture était si bonne, l'expérience si agréable, l'occasion si unique et précieuse que nous n'avons pas un instant regretté la dépense. À l'inverse, quand on va au McDo, toute notre famille mange pour moins de 35 euros. Mais j'y vais quand même en traînant les pieds et en trouvant sa chair pour ce que c'est. Et pourtant, 6 personnes y mangent pour moins d'argent que ne coûtent 2 coupes de champagne dans cet autre restaurant. Vous voyez, ce que nous sommes prêts à payer pour un service révèle l'appréciation que nous avons de ce service et aussi la qualité que nous attendons en retour. De la même façon, ce que vous êtes prêts à payer pour la prédication de la parole de Dieu révèle l'appréciation que vous en avez et aussi la qualité que vous pouvez attendre en retour. Quel va être le standing de notre Église en ce qui concerne l'enseignement de la Bible? Fast food? Église fast food? Fast food spirituel ou restaurant étoilé? Quel va être le standing de notre Église? On a l'impression qu'il y a des gens qui croient que le ministère de la parole va de pair avec le vœu de pauvreté ou le don de pauvreté. Mais ce n'est pas vrai dans l'Écriture, hein. Et je crains qu'il y a des hommes, aujourd'hui, en France qui prennent de la peine, comme dit Paul, qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement de la Bible, mais qui se découragent. Et peut-être parfois qui renoncent à leur ministère, ou du moins qui le font d'une manière désinvolte, parce qu'ils ne sont pas honorés à la hauteur de leurs efforts et de la qualité de leur travail. Si le bœuf qui foule le grain, comme nous le rappelle Paul dans ce passage, si le bœuf qui foule le grain a le droit, lui, en vertu d'une loi millénaire inscrite dans la Torah d'Israël, dans le Pentateuque, si le bœuf qui foule le grain a le droit de se nourrir des fruits de son travail, à plus forte raison, les pasteurs et les anciens devraient-ils être honorés et récompensés, eux qui sont des porte-paroles et des lieutenants de Jésus-Christ, comme dit Calvin, des lieutenants de Jésus-Christ. Et pourquoi le travail des pasteurs et des anciens est-il si important en tant que porte-parole et lieutenant de Jésus? Eh bien, on l'a déjà dit il y a quelques semaines, les ministres de la parole exercent le métier le plus important du monde, parce que quand ils dispensent la parole de Dieu, quand ils enseignent la Bible, ils font usage de l'outil que Dieu utilise ordinairement pour sauver des êtres humains. Le message central de la Bible, c'est la bonne nouvelle selon laquelle Dieu a offert en sa propre personne une expiation parfaite pour les péchés de tous ceux qui se confient en lui. Jésus, le Fils de Dieu, a pris la place des croyants sur la croix et il a subi le châtiment des croyants à leur place, afin que les croyants soient complètement pardonnés et purifiés de leurs péchés et réconciliés avec Dieu et destinés à la vie éternelle. Ça, c'est le message central de la Bible. C'est la bonne nouvelle que les prédicateurs enseignent quand ils enseignent la Bible. C'est la bonne nouvelle, l'évangile qu'ils proclament. C'est le message le plus important qu'il puisse être donné à un homme d'entendre dans sa vie. Et les anciens qui dirigent l'Église, ils dirigent, selon Paul, pour reprendre une expression de Paul, la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alors, est-ce que les pasteurs et les anciens font un travail important? Mais surtout, vous, est-ce que vous avez entendu leur message, le message des porte-paroles de Jésus-Christ? Est-ce que vous avez reçu le pardon de vos péchés par la foi? Est-ce que vous avez confié votre vie à Jésus? Est-ce que vous appartenez à la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité? Alors voici, par exemple, dans l'Épître aux Romains, comment Paul décrit l'importance de l'office des anciens, surtout de ceux qui se donnent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Écoute bien ce qu'il dit. « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles !» Et là, il cite un verset dans l'Ancien Testament, prophète Ésaïe. Et ensuite, il dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Et dans le même passage, il dit « Comment entendront-ils s'il n'y a pas de prédicateur ?» Vous voyez, c'est un ministère proprement salvateur que de dispenser la parole de Dieu. Les pasteurs et les anciens exercent une fonction très importante et c'est pourquoi ils doivent être honorés, récompensés, appréciés, encouragés, respectés. Et ceux qui se consacrent à temps plein à ce travail et qui font un bon travail doivent être rémunérés, probablement plus généreusement qu'ils ne le sont en général. Et je ne parle pas pour moi, je parle des pasteurs que je connais, surtout en francophonie, surtout en France. Voici ce que dit Paul aussi aux Corinthiens. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce excessif que nous moissonnions vos biens matériels? Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel? De même aussi, le Seigneur a établi comme règle que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 11 à 14. Alors, prendre l'office d'ancien très au sérieux implique donc premièrement d'honorer les anciens généreusement. Deuxièmement, cela implique de corriger les anciens fermement. Alors, l'idée principale des versets 19 à 21, c'est qu'il faut prendre très au sérieux la question de l'intégrité morale des anciens. Cela signifie, verset 19, d'une part, protéger les anciens contre les accusations abusives. Paul semble suggérer ici que les anciens sont susceptibles d'être la cible d'accusations mensongères dont le but serait de ternir leur réputation et de saboter leur ministère. Premièrement, il faut les protéger contre cela. D'autre part, verset 20, il faut corriger sévèrement les anciens chez qui, effectivement, un écart de conduite serait avéré. Vous voyez, quand le péché d'un ancien serait connu, d'après Paul, il faut le corriger devant tous, dit-il. Et quand il dit devant tous, ça veut probablement dire devant l'assemblée, pas devant tous les autres anciens, mais devant toute l'Église. C'est une instruction très sévère de la part de Paul, bien sûr, mais le but, il ne faut pas se le cacher, c'est de rappeler aux anciens quelle est l'importance de leur fonction, quelles sont les exigences qui reposent sur leurs épaules. Encore une fois, Paul est en train de mettre la pression aux anciens de l'église d'Éphèse, l'église de Timothée. Et enfin, verset 21, dans le cas où un ancien serait soupçonné d'actes répréhensibles, il faut, d'après Paul, examiner la situation en toute objectivité, en observant strictement les règles que Paul a établies, et cela en évitant tout parti pris et tout préjugé sur la personne. Bref, pour récapituler ces quelques versets, dans ce domaine, il faut, pour, d'après Paul, une grande, grande fermeté pour ce qui est de l'intégrité morale des anciens. Et il semble que Paul soit en train de dire que l'intégrité morale des anciens est un sujet qui doit être pris au sérieux, très au sérieux, parce que les anciens occupent une position particulièrement exposée. Ils sont particulièrement exposés à certains écueils, à certains dangers. Évidemment, puisque ce sont eux qui enseignent et qui dirigent, ce sont eux qui sont exposés. Dans notre société, d'ailleurs, on peut penser à d'autres fonctions qui sont occupées par des personnes qui ont, du fait de leur fonction, une position particulièrement exposée. On peut penser aux ministres du gouvernement, par exemple. Les gens qu'on voit à la télé aux 20h, vous voyez. Je trouve ça fascinant et un peu triste, d'ailleurs, la façon dont les ministres du gouvernement, surtout en période électorale, sont mitraillés de reproches et d'accusations en tout genre, des reproches qui sont des accusations tantôt d'ordre politique, mais tantôt d'ordre moral aussi. Et parfois, une simple accusation peut décrédibiliser un ministre au point d'entraîner sa démission, même si les faits qui lui sont reprochés ne sont pas totalement avérés. On a déjà vu ça, n'est-ce pas? Parfois, un ministre paye les frais des erreurs ou de l'incompétence de quelqu'un d'autre ou de son équipe, et il se retrouve limogé sans que ce soit forcément sa faute, mais simplement parce que lui, c'est celui qui est le plus connu. Parfois encore, des ministres sont poussés vers la porte, tout simplement parce qu'il n'y a personne d'autre à qui faire porter le chapeau pour une situation qui est totalement indépendante de leur volonté ou de leur compétence, comme par exemple les difficultés que peuvent entraîner que peut entraîner une crise économique mondiale dans un pays. Mais on ne trouve pas à qui faire porter le chapeau, donc on fait porter le chapeau à ceux qui sont exposés. N'est-ce pas? Et quand il y a un comportement immoral ou illégal avéré chez une telle personne occupant une fonction à haute responsabilité, bien souvent le public, les médias et les autorités, et avec raison, exigent que toute la lumière soit faite sur l'affaire, que personne ne se dérobe à ses responsabilités, et que la justice soit appliquée publiquement, de manière exemplaire et objective. C'est normal, c'était quelqu'un avec des responsabilités, quelqu'un d'exposé. Bref, pour Paul, les anciens dans l'Église occupent une position similaire, une position exposée, donc dangereuse et exigeante. Dangereuse parce que les anciens sont susceptibles d'être accusés abusivement, je l'ai dit. Exigeante parce que les anciens doivent se soumettre au regard scrutateur des gens dans l'Église et maintenir en dépit de leur nature pécheresse une conduite moralement exemplaire. Vous imaginez la pression sur les épaules des anciens. Les anciens sont en première ligne. Et là, j'aime beaucoup ce que dit Calvin, encore lui, à ce sujet. Mais Calvin, c'était un théologien qui était très très réaliste. Et dans ses commentaires sur notamment l'épître, les deux épîtres à Timothée, on sent l'expérience du terrain, d'accord? Écoutez ce que Jean Calvin dit sur ce passage. Il n'y en a point qui soit plus sujet aux calomnies et aux détractions que les docteurs, c'est-à-dire les enseignants, ou pasteurs fidèles. Car outre qu'à cause de la difficulté de l'office, il advient que quelquefois il succombe sous le fardeau, ou chancelle, ou cloche, ou s'abuse, de quoi les malins prennent beaucoup d'occasions de mordre, il y a encore ceci davantage. Que même ils feraient si bien leur office qu'ils ne pécheraient en la moindre faute qui soit, toutefois, ils ne pourront éviter qu'on ne les reprenne en plus de mille sortes. Et c'est ici la finesse de Satan, de détourner les cœurs des hommes de leurs ministres, c'est-à-dire le cœur des gens dans l'Église, de leurs pasteurs et leurs anciens, afin que la doctrine peu à peu tombe en mépris, Ainsi, non seulement on fait tort aux innocents, en ce que leur bonne réputation est blessée sans cause, ce qui toutefois est une chose fort vilaine en un état si honorable, mais l'autorité est ôtée à la très sainte doctrine de Dieu. Et c'est, comme j'ai dit, ce à quoi Satan s'efforce principalement. Les pasteurs et les anciens sont en première ligne d'un combat qui est spirituel, mes amis. Ils sont les porte-paroles et les lieutenants de Jésus chargés de proclamer la victoire de Jésus sur le mal et la mort, chargés de diriger l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Par le moyen de ce ministère, le ministère des pasteurs et des anciens, Dieu sauve des hommes et il consolide son Église. Et Jésus a promis, comme Gilles nous l'a rappelé dans la lecture tout à l'heure, que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église que Jésus est en train de bâtir. C'est un combat spirituel, évidemment. Cette promesse de Jésus, cet engagement de sa part ne plaît pas au diable. Et son nom en grec signifie d'ailleurs le calomniateur. Et un de ses surnoms dans la Bible, c'est l'accusateur des frères. Les pasteurs et les anciens qui sont fidèles à l'Évangile constituent la cible privilégiée de l'adversaire. Alors en tant que chrétien, mes amis, en tant que membre d'Église, n'entrez pas dans le jeu de l'ennemi. Il est très tentant de soupçonner le mal chez les personnes qui occupent une position d'autorité. Quelqu'un a dit une fois qu'on mettait les pasteurs sur des podiums pour pouvoir mieux les viser. Comme c'est mon cas ici, mais je suis un peu protégé là, ça va. Il est très facile, mes amis, de se laisser influencer par les murmures, les critiques et les reproches d'une seule personne insatisfaite. La règle d'or, si vous avez un reproche à formuler à l'encontre de quelqu'un, faites-le directement à la personne et en personne. Faites-le directement à la personne et en personne. Si vous pensez qu'un ancien ou un pasteur a péché de façon avérée, suivez consciencieusement les instructions bibliques à ce sujet. Et on trouve d'autres instructions concernant la discipline dans l'Église, dans par exemple Matthieu chapitre 18. Mais suivez consciencieusement les instructions bibliques à ce sujet, sans préjugés, sans esprit de parti. Car les enjeux sont très sérieux d'après Paul, du fait de l'importance de la fonction qui est en jeu, la fonction d'ancien ou de pasteur. Prendre l'office d'ancien très au sérieux implique donc premièrement d'honorer les anciens généreusement, deuxièmement de corriger les anciens fermement. Troisièmement, ça implique d'installer les anciens prudemment. Et dans les versets 22 à 25, on a une idée générale, c'est que personne ne devrait accéder du jour au lendemain à la fonction d'ancien dans une église. Pourquoi ? Parce qu'il y a des hommes, d'après Paul, qui font bonne impression au départ, alors qu'en fait leur cœur est mauvais. Et s'ils deviennent anciens trop vite, on le découvre généralement trop tard. C'est ce qu'il dit au verset 24. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, mais chez d'autres, ils ne se découvrent qu'après coup. À l'inverse, dit Paul, il y a des hommes qui ne paient pas de mine, a priori, mais chez qui on découvre avec le temps une grande piété et toutes les qualités propres à exercer la fonction d'ancien. C'est pour cette raison que je suis revenu sur le verset 25. Dans ma traduction de la Colombe, on a « De même, les œuvres bonnes se manifestent et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées », autrement dit, les œuvres qui ne sont pas bonnes. En réalité, le grec permet l'autre traduction que je vous ai proposée et qui, d'après moi et d'après d'autres commentateurs, est plus cohérente. « De même, les œuvres bonnes sont manifestes et celles qui ne le sont pas », autrement dit, qui ne sont pas manifestes mais qui sont bonnes, ne peuvent rester cachées. Et ça permet de faire correspondre le parallèle entre les péchés et les œuvres bonnes. Les péchés, certains sont manifestes, d'autres se découvrent après coup. Les bonnes œuvres, de même. Certains sont manifestes, d'autres se découvrent avec le temps. En tout cas, au milieu de ce discours sur la nomination et la consécration prudente des anciens, c'est ça que veut dire imposer les mains, ça veut dire consacrer un ancien à sa fonction, eh bien Paul ouvre une parenthèse, verset 23. C'est tombé comme un cheveu sur la soupe. Quelque chose que Paul, à l'origine, avait peut-être écrit dans la marge de sa lettre originale, et qu'ensuite les copistes ont simplement intégré au manuscrit, ce qui semblerait tout à fait cohérent. En tout cas ici, verset 23, dans cette parenthèse, Paul conseille à Timothée de boire du vin pour soulager ses maux d'estomac. Eh bien, un commentateur que j'ai consulté soulève la possibilité, que je trouve très intéressante, que la raison pour laquelle cette remarque a traversé l'esprit de Paul, c'est qu'en écrivant toutes ses instructions au sujet des exigences et des difficultés qui entourent le ministère des anciens et des pasteurs, ben Paul, à un moment donné, il a été ému par le stress auquel le jeune pasteur Timothée était soumis du fait de son travail, et aussi par les ennuis de santé qui découlaient de ce stress, ses maux d'estomac, ses indispositions. Et du coup, cela lui traverse l'esprit, tiens, pour tes maux d'estomac, arrête de boire que de l'eau, bois un peu, aussi, un peu de vin aussi. Puis il aurait rajouté ça dans la marge, vous voyez, c'est cohérent. En tout cas, l'idée principale dans ce passage, c'est qu'on doit être prudent dans la nomination et la consécration des anciens dans l'Église. Pourquoi ? Parce que Jésus a décrit une des réalités du combat spirituel dans l'Église en ces termes. Combat spirituel dans lequel l'Église est engagée, il l'a décrit en ces termes. Matthieu chapitre 7, verset 15. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Et Paul lui-même, lorsqu'il a dit au revoir en personne aux anciens de l'église d'Éphèse qu'il a établi, et ce récit on le découvre dans le livre des Actes, chapitre 20, où Paul a créé l'église d'Éphèse, c'est l'église dont Timothée le pasteur, au moment où il lui écrit cette lettre, Paul, au moment de leur dire au revoir à ces anciens qu'il avait fraîchement établis dans l'église, il va leur adresser un discours poignant, mais une des choses qu'il leur dit, c'est la suivante. « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'église, vous a établi évêque, pour faire paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Et je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et je sais que du milieu de vous, autrement dit des anciens, parce qu'il est en train de parler exclusivement aux anciens de l'église, là, du milieu de vous, les anciens, se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. » Alors mes amis, je vous pose une question. Est-ce qu'il y a pire ou plus dangereux qu'un loup déguisé en agneau? Oui, un loup déguisé en berger. Voilà pourquoi il faut installer les anciens prudemment. On ne peut pas sous-estimer l'importance d'être patient dans ce domaine. On ne peut pas sous-estimer l'importance de la préparation et de la formation à ce ministère si important. Vous avez remarqué l'expression que Paul a employée là dans le discours d'adieu aux anciens d'Éphèse, l'expression qu'il a employée pour souligner l'importance de cet office d'ancien et de pasteur. Il a dit qu'en tant qu'ancien, vous faites paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Cahier des charges des anciens. Faire paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Alors est-ce qu'il y a des volontaires ? Je vais vous dire une chose, il faut se méfier des hommes qui se précipiteraient pour se porter candidat à ce ministère. Parce que soit ils n'ont pas bien mesuré l'importance de la mission, soit ils en ont bien mesuré l'importance et ils sont là justement pour le compte de l'ennemi, avec l'intention de saboter l'œuvre de Dieu. Et si on consacre de tels loups redoutables à une fonction si éminente, alors nous nous rendons en partie responsables des conséquences. Vigilance, dit Paul. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne te rends pas complice des péchés d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. Ok. Prendre l'office d'ancien très au sérieux implique donc premièrement d'honorer les anciens généreusement, deuxièmement de corriger les anciens fermement et troisièmement, on l'a dit, d'installer les anciens prudemment. Comme je l'ai dit en introduction, la tendance est de sous-estimer l'importance de cette fonction. Et vous donc, à quel point prenez-vous au sérieux le rôle des anciens dans l'Église? Est-ce que ces quelques versets de la part de l'apôtre Paul ont corrigé peut-être certaines idées reçues que vous aviez? Peut-être que vous êtes d'un arrière-plan catholique et que vous êtes franchement méfiant de tout ce qui ressemble à du cléricalisme ou à de la hiérarchie dans l'Église. Et j'espère que ce texte vous a permis de voir que Dieu n'est pas contre la hiérarchie dans l'Église, mais qu'avec les responsabilités viennent aussi, selon Dieu, selon Paul, des exigences et en même temps une vraie vulnérabilité. On est en première ligne. Peut-être que vous êtes d'un arrière-plan évangélique, peut-être darbiste, qui ne croit pas à la rémunération des pasteurs. Ben, j'espère que vous avez pu voir que l'apôtre Paul ne partage pas cet avis. Que les anciens soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Peut-être enfin que l'Église, c'est quelque chose qui est relativement nouveau pour vous, et encore largement inconnu ou méconnu, et que vous ne voyez franchement pas en quoi les pasteurs et les anciens, c'est-à-dire les responsables des églises, ont un rôle si important. Mais dans ce cas, j'espère que le message de cet après-midi vous a permis au moins de comprendre que l'église, c'est une communauté d'hommes, de femmes et d'enfants qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur en vertu de ce qu'il a fait à la croix, en donnant sa vie comme rançon pour nous délivrer de notre culpabilité devant Dieu et pour nous délivrer de la mort. Jésus est ressuscité, il est aujourd'hui le chef vivant de ce qu'on appelle l'Église, de ce peuple, dont il a confié la direction et l'enseignement à des gens en particulier, les anciens et les pasteurs. Voilà quelle est l'importance de leur fonction, j'espère que vous pouvez voir pourquoi c'est important. Mais si vous ne vous sentez, si vous vous sentez détaché de cette réalité, si vous ne vous sentez pas concerné par cette réalité, j'espère que vous comprenez aussi cet après-midi que Jésus vous invite à faire partie de son peuple. Il vous invite à intégrer l'Église pour de vrai, en plaçant votre foi en lui. Il vous invite à entrer au bénéfice de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'il continue de faire en faveur de ceux, de tous ceux qui lui confient leur vie. Amen.